Nous sommes donc en direct avec Marie-Estelle Dupont. Bonsoir Marie-Estelle Dupont.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute, auteur de « Se libérer de son moi toxique » publié aux éditions Larousse. On a l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à avoir un moi toxique en ce moment. On est passé d'une sorte d'expérience, entre guillemets, avec ce confinement à quelque chose de plus lourd. Comment canaliser cette tension, cette inquiétude qui monte un peu partout ?
Oui, absolument. Là, le début de la semaine 3, il faut vraiment se dire que c'est un des moments les plus difficiles pour tout le monde parce qu'on n'est effectivement plus dans la nouveauté. Et en même temps, on ne sait pas exactement quand ça va se terminer. Donc, comme l'être humain n'est pas fait pour être enfermé, physiquement et psychiquement, c'est compliqué pour tout le monde. Pour ceux qui sont confinés seuls, en famille ou en couple, il y a un vrai défi. Donc là, on va devoir passer dans une sorte de chronicité de moyen terme. Ça va s'arrêter, on le sait, ça va pas durer très longtemps. Mais c'est vrai qu'on passe dans le moyen terme et que c'est difficile de voir les jours se rallonger à l'extérieur et de pas pouvoir en profiter.
Vous parlez des couples précisément. Il y a beaucoup de témoignages là encore de tensions dans les couples. Le moindre geste du quotidien peut provoquer une explosion.
Bah bien sûr, je crois que même pour les couples très harmonieux, c'est vraiment une épreuve et un défi qu'ils vivent. En fait, on n'est pas fait pour être collé 24 heures sur 24 et le désir, il se nourrit de distance. Quand on est en fusion, on ne peut plus voir l'autre dans sa globalité. Donc la première chaussette qui traîne et la première tasse de café pas lavée devient une source d'engueulade parce qu'il faut lâcher les nerfs sur quelque chose et qu'on peut plus les lâcher à l'extérieur ou dans le sport. Donc je crois que pour les couples, pour survivre au fait d'être collés, qu'on ait ou pas des enfants, c'est extrêmement important de recréer de la distance. De la distance spatiale, temporelle et psychique.
Mais comment on fait quand on est enfermé?
Alors quand on est enfermé dans un appartement pas beaucoup plus grand qu'un studio, bon s'il y a deux pièces, peut-être réorganiser l'espace différemment. Vous avez peut-être un enfant qui est confiné chez votre ex, ce qui libère une chambre. Et ben le temps du confinement, peut-être que cette chambre peut être la pièce de l'un des deux dans le couple où il fera sa gym le matin, où il bossera sans que vos conversations téléphoniques le dérangent. Donc recréer une distance spatiale. On n'est pas obligé d'être l'un sur l'autre tout le temps. Faut aménager l'espace momentanément différemment. Quand je parle de distance temporelle, c'est pas parce qu'on est collé qu'on doit être tout le temps dans les mêmes activités. Je pense que là, il y a notre vie s'inverse, c'est-à-dire que tous les repères d'avant deviennent inversés. Donc avant, on pouvait avoir du plaisir à faire le marché le dimanche ensemble parce qu'on se voyait pas de la semaine. Là, je vous en prie, tous les couples, faites preuve d'un tout petit peu d'hygiène émotionnelle. Ne faites pas les courses ensemble. C'est-à-dire que l'heure où vous avez le droit de sortir, surtout ne sortez pas ensemble. Ça fait déjà 2 heures où vous ne vous voyez pas. Et là, le temps qu'on cherchait avant à passer ensemble, qui était très précieux, c'est l'inverse. Maintenant, c'est le temps qu'on ne va pas passer ensemble qui est très précieux
et
pour
ça,
arriver à nourrir.
Faut l'accepter sans se dire que c'est grave.
Et non, mais il faut nourrir la dynamique de désir. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du désir, pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des retrouvailles et des moments où on n'est pas ensemble. Donc, c'est super d'avoir le temps de déjeuner ensemble en semaine, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Par contre, il ne faut pas faire les tâches ménagères ensemble, il ne faut pas faire les courses ensemble, il ne faut pas faire la promenade quotidienne ensemble, parce que ce n'est pas dans la queue de chez Franprix avec un masque qu'on va se reconquérir. Donc, le désir, il a besoin de distance. Et il y a beaucoup de patientes, notamment des femmes, qui me disent « mais j'ai l'impression que mon mari me désire moins ». Et je leur dis surtout « ne le prenez pas personnellement ». En fait, là, la baisse de libido, elle est pas liée à vous. Vous seriez sur une plage en train de faire du ski nautique, il vous sauterait dessus 3 fois par jour. La baisse de libido, elle est liée au contexte, parce qu'un homme est aussi très émotionnel dans son désir. Et comme il ne sait pas où il en est dans son boulot, comme il n'a plus ses exutoires habituels, il est stressé, il est fatigué nerveusement. Et la fatigue nerveuse qui monte en 3e semaine de confinement est très mauvaise pour le désir. Donc il ne faut pas se mettre la pression et se dire « le couple va mal parce qu'on a moins de sexualité alors qu'on est tout le temps ensemble, on devrait en avoir plus ». C'est pas comme ça, en fait. La dynamique de désir, elle est dure à relancer.
Vous parliez d'hygiène émotionnelle. Comment gérer les vagues émotionnelles qui nous submergent ? J'ai l'impression que tout le monde passe à des moments différents, par des très hauts, des très bas, des « c'est pas si grave », des « c'est la catastrophe ». Comment on arrive à gérer ça quand on sait qu'en plus on doit le gérer collectivement quand on est en couple ou en famille ?
Oui, bah c'est tout à fait normal d'avoir les montagnes russes émotionnelles, sauf qu'en fait, on les a tout le temps, sauf que là, on s'en rend plus compte. On a un effet miroir parce qu'on est collés les uns aux autres. Donc, d'abord, je pense que pour les couples qui sont avec des enfants, il faut qu'ils arrivent à créer des moments Par exemple, avant, tous les jeudis soirs, vous dîniez à l'extérieur avec votre femme et il y avait une babysitter qui venait. Ben là, la babysitter, elle peut plus venir. Ça ne veut pas dire que vous annulez cette soirée en tête à tête du jeudi soir. Ce jour-là, le jeudi soir, les enfants, surveillés par l'aîné à qui vous donnerez 10 euros d'argent de poche,
ne
seront pas sous votre surveillance et vous pouvez mettre un panneau sur votre porte de chambre avec écrit « Papa et maman sont sortis ». Parce que votre enfant de 7 ans qui vient d'apprendre à lire va trouver ça très drôle d'avoir écrit « Papa et maman sont sortis » en période de confinement et vous, vous aurez votre espace à vous. Donc, il faut recréer des moments hiérarchisés où on est tout seul, des moments où on est tous ensemble et des moments où on est en couple sans les enfants. Mmh. Et puis, dans l'hygiène émotionnelle, je crois qu'il y a vraiment un truc hyper important en ce moment. C'est de ne pas faire l'erreur de se dire « Ah bah tiens, puisqu'on est ensemble, on va enfin pouvoir parler des sujets de fond et des sujets qui fâchent.
» Non, c'est pas le moment.
C'est-à-dire que s'il y a un sujet sur lequel votre conjoint ou votre femme est crispé depuis 6 mois, comme « Est-ce qu'on part en province ? Est-ce qu'on fait un petit dernier ?» c'est pas du tout le moment d'en parler, parce que vous passerez pas par la fenêtre vu qu'on n'a pas le droit de sortir, mais ça va forcément mal finir. Donc, s'il vous plaît, enterrez l'âge de guerre, mettez de la bienveillance, vous êtes collés. Donc, pour que les montagnes russes émotionnelles soient lissées, dites-vous que dans un petit espace, tout ce que vous envoyez, vous allez le reprendre en boomerang très, très vite. Si on s'engueule le matin avant de partir au boulot, ça va se répercuter sur un collègue et peut-être que le soir, on aura oublié, ça ira. Là, ça va revenir en boucle très, très vite. Donc, si vous voulez que ça se passe bien, envoyez du positif, envoyez de la bienveillance. Qu'est-ce que je peux faire pour que ton confinement se passe mieux alors que tu sais pas jusqu'à quand t'as plus de clients. Demandez à l'autre ce que vous pouvez faire pour lui rendre la vie plus agréable. Vous êtes pas tout puissant, vous êtes pas magicien, mais il le sait. Mais le fait que vous lui posiez la question, ça va faire redescendre de la pression.
Vous nous faites beaucoup de bien, Marie-Estelle Dupont. On a beaucoup, beaucoup de questions, donc je vais vous les lire avec, s'il vous plaît, des réponses assez courtes, si c'est possible. Katia nous écrit « Je ne suis pas malade, mais est-il normal que je ressente une grande lassitude physique, une fatigue ?»
Oui, alors vous savez, je ne sais pas si vous courez parfois, mais quand on court moins vite que son rythme de croisière, parce que quelqu'un à côté de nous court moins vite, on est plus fatigué que quand on court plus vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps, il n'est pas fait pour être en dessous de son rythme. Et là, il y a la fatigue parce qu'on est mal oxygéné. Comme on est stressé, on respire tous mal. Comme on respire mal, on est fatigué. Et plus la fatigue nerveuse, plus l'inactivité qui est en fait épuisante. Donc, comme on a tous un changement de rythme, le passage au printemps qui devrait se faire en contact plus avec la nature, là, c'est exactement l'inverse. Donc, tous les organismes sont fatigués et on est tous stressés. Donc, il faut vraiment travailler sur son immunité, des postures de yoga et de la gymnastique pour relancer l'énergie dans le corps.
Deux questions sur l'école. Régine nous dit « Au début, je trouvais ça bien, les devoirs à la maison. Maintenant, quand je vois les mails de la maîtresse arriver, ça me stresse. » Et Stéphano qui dit « Mes enfants se mettent trop de pression avec l'école à la maison. »
Alors, en fait, Stéphano, vous inquiétez pas, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pas les devoirs qui les stressent spécialement, vos enfants, c'est en fait qu'ils ont besoin de repères, on a tous perdu nos repères, et les enfants sont très conservateurs, ils ont besoin de repères, ils ont beau dire « youpi, il n'y a plus école », en fait, au bout de 3 semaines, ils font pas les malins, parce que leurs repères spatio-temporels sont bouleversés. Donc, il s'accroche au devoir parce que c'était une routine, en fait. Donc, je pense que la maîtresse, pour faire le lien avec la première question, se met aussi beaucoup la pression en se disant « je veux pas que les parents me disent après que j'ai lâché le programme, que les enfants n'ont plus rien appris ». Donc, elle essaye de faire de son mieux. Donc, elle se met de la pression. Vous, quand vous recevez le mail, vous mettez la pression en vous disant « oh là là, la maman d'à côté qui a pas de boulot, bah elle a le temps de leur faire faire, moi, je suis en télétravail, je peux pas ». Non, il faut faire baisser la pression. Chacun fait de son mieux. Y a un très joli livre qu'on aurait tous le temps de lire en ce moment, c'est « Les 4 accords Toltec », qui est tout petit et qui rappelle bien que c'est important dans la vie pour se sentir bien de faire de son mieux, ni plus ni moins. Pas plus parce qu'on s'épuise, pas moins parce qu'on se culpabilise. Donc, on fait les devoirs. On sait bien que cette année, de toute façon, notamment pour ceux qui passent le bac, etc., c'est un peu une année blanche. Ce qui est important, c'est que les enfants gardent une routine de travail, un goût pour l'apprentissage. Après, ils vont peut-être aussi apprendre plein de choses qu'ils n'ont jamais l'occasion d'apprendre. La maîtresse sait bien que le bulletin du 3e trimestre, il n'aura pas la même valeur que celui du 1er trimestre. Donc, c'est pas grave.
Et que c'est pas si grave, voilà, c'est ça. La sortie du confinement, même si elle est loin, même si on ne sait pas quand elle se produira, angoisse aussi beaucoup, comme si on était fragilisé.
Oui, mais vous savez, je pense que dans les crises, on se stresse sur la crise. Alors, c'est l'après-crise qui n'est pas évident à gérer comme virage. Pour beaucoup, il y a des angoisses professionnelles et économiques parce qu'on ne sait pas dans quel état on va retrouver les choses. Je crois que c'est très important de ne pas, enfin c'est un peu ballot ce que je veux dire, mais de ne pas transpirer avant d'avoir chaud. C'est-à-dire qu'on va gérer là, on est tous obligés de gérer au jour le jour. Donc ça sollicite énormément nos capacités d'adaptation. Nos capacités d'adaptation, concrètement, c'est nos glandes surrénales qui gèrent la fatigue, donc c'est pour ça qu'on est épuisé. L'après-confinement, on va tous se retrouver dans une situation inédite, donc le fait qu'on se retrouve tous dans une situation inédite, on va quand même être porté par le collectif. Donc finalement, on va avoir en temps réel des idées qu'on n'aurait pas eues dans une autre situation.
Donc c'est pas la peine d'anticiper, vraiment... on prend chaque problème après l'autre.
Bah, je pense que l'anticiper, c'est s'épuiser mentalement et se donner une illusion de contrôle qu'on n'a pas, parce que de toute manière, on n'a aucune certitude ni sur le quand, ni sur le comment. Mmh. Donc tout ce qu'on va essayer de se fatiguer à mettre en place maintenant va être mis à l'eau, et on va finalement en temps réel trouver d'autres solutions. Donc lâchez prise, faites-vous confiance. Avant d'avoir un enfant, vous n'aviez pas d'enfant, puis le jour où votre enfant était là, bah, vous avez changé des couches. Bah, c'est pareil. Avant, vous ne saviez pas comment vous alliez faire, et puis en temps réel, bah, vous avez appris sur le tas. Et on va tous trouver des solutions. Et si on s'épuise à les penser à l'avance, on va plutôt fatiguer notre créativité et arriver complètement épuisé le jour J. Alors que finalement, le jour J, on a un cerveau qui est en état de marche et on va trouver des solutions tous.
J'ai encore 2000 questions à vous poser parce que vraiment, vous passionnez les auditeurs. Je vais en poser deux. Camille qui dit « Je me sens inutile et je le vis mal ».
Oui, beaucoup de gens disent ça, notamment les gens seuls qui se retrouvent coupés de gens qu'ils aiment de par la nécessité.
Mais à quel moment c'est normal et à quel moment ça peut être un problème de santé ?
De se sentir inutile ?
Oui.
Alors peut-être que Camille,
entre
elle était déjà, elle avait déjà des moments de déprime qui étaient maquillés par l'hyperactivité. Elle est certainement dans un moment où le confinement va lui donner l'occasion de faire le bilan. Je pense aussi qu'on a tous une réelle admiration pour les soignants et les policiers qui sont au front et qu'on se dit tous qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Et ça, c'est plutôt un sentiment qui nous honore en fait de collectif. Maintenant, Camille, bon, moi je la connais pas, mais je pense qu'elle avait peut-être déjà des difficultés avec son estime d'elle-même. Et qu'elle a tendance à trop s'identifier à ce qu'elle fait et pas suffisamment à ce qu'elle est. Et que c'est peut-être le moment ou jamais, si elle n'est pas trop prise par des enfants, de se demander ce qu'elle veut vraiment pour sa vie d'après. Et peut-être quelles sont notées les choses dont ça nous fait prendre conscience. Enfin, peut-être que dans sa vie d'après, il y a du temps qu'elle veut retirer à certaines activités et qu'elle veut consacrer à d'autres, notamment des choses d'ordre collectif et de service public.
Une dernière question vraiment rapidement, mais je l'adore cette question. Moi, elle me fait sourire, peut-être qu'elle n'est pas drôle, je ne sais pas. Patrice nous écrit « J'ai une petite montée d'angoisse quand je vois des gens s'embrasser ou se serrer la main dans un film ou dans une série télé ». Quand même surprenant.
Oui, bon, on a tous des petites projections paranoïaques en ce moment, et puis le fait d'être inactif, ça nous rend encore plus paranoïaque. C'est pas grave, mais je pense que, alors, vous voyez, dans les astuces, je pense qu'en ce moment, il faut limiter le temps où on écoute les informations, le temps où on regarde des choses anxiogènes, et tout simplement se repasser des films qu'on adore, une série qu'on a regardée à l'époque où on a rencontré son amoureux, ça va plutôt ressouder le couple, et regarder des choses qui nous font rire. Après, gérer l'anxiété, ça passe énormément par gérer son corps. Donc je pense que cet auditeur, il a tout intérêt à s'astreindre tous les matins, à faire du sport, à faire de la gym, à transpirer. Ouvrez les fenêtres, mais transpirez chez vous, s'il vous plaît. Ça va faire baisser les hormones de stress et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et il y a plein de tutos sur Internet, parce que aujourd'hui on a quand même ça. Regardez le soir des postures de yoga toutes simples, la posture de l'enfant, la posture de l'arbre, qui vont faire baisser en fait le mental. Et c'est dans le mental qu'il y a vos peurs.
Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Je rappelle votre ouvrage « Se libérer de son moi toxique » aux éditions Larousse. Le petit bouquin que vous nous conseillez, c'était quoi ?
Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz.
Accords Toltec de Don Miguel
Ruiz. Et là, je pense que c'est le moment ou jamais de les appliquer, c'est-à-dire avoir toujours une parole impeccable, ne rien prendre personnellement, faire de son mieux, ni plus ni moins, et ne pas faire de suppositions. Donc ne projetez pas. Voilà. Chaque chose en son temps.
Merci infiniment, Marie-Estelle Dupont, d'avoir été en direct dans RTL Soir.
Allez, bon courage à tout le monde.
Merci beaucoup.